Scarp Ciné.
Séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne.
Et action!
Bonjour à tous, bienvenue dans le livre du cinéma en région, Scarp Ciné. Aujourd'hui, une page spéciale à l'occasion de la 33e édition du Festival international du grand reportage d'actualité, de société et du documentaire, actuellement à Douai jusqu'au 4 avril. Et dans la sélection, zoom sur un documentaire coproduit par Pictanovo avec la région Hauts-de-France et France 3 Hauts-de-France en question. Bon baiser des grèves, c'est le nom de ce documentaire. Rencontre en visio avec le réalisateur Philippe Baron et Carole sur Radio Scarp Sensé et Radio Club.
Scarp Sensé, au plus proche de votre cinéma, dans le magazine 7e art.
Et dans Scarp Ciné, nous recevons Philippe Baron, réalisateur du documentaire « Bon baiser des grèves », présenté d'ailleurs ce jour au FIGRA. Bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes avec Carole.
Bonjour à tout le monde.
Ce documentaire, de 1905 à 1912, la France est secouée par une vague de conflits sociaux. Le syndicalisme naissant invente de nouveaux modes d'action. Les grèves sont dures et violemment réprimées. De Limoges à Courrières, en passant par Fougères, un jeune photographe parcourt cette France industrieuse, en colère et diffuse des photographies au plus grand nombre grâce à un média visuel populaire, la carte postale. Et justement, c'est la carte postale achetée dans une brocante qui a commencé cette belle aventure.
Oui, tout à fait. Comme je le raconte dans le film, c'est vraiment un jour, je me promène dans une brocante, voilà, en fouinant, en chinant. Et puis je tombe en arrêt sur une série de cartes postales. Il y avait 4 ou 5 cartes postales sur lesquelles on voit des visages de grévistes. Et la légende marque Fougères en grève. Donc Fougères, c'est en Bretagne, c'est pas très loin de chez moi. Et je vois ces visages de grévistes et ça m'interpelle. Ça m'interpelle pour deux raisons. D'une part, je n'avais jamais entendu parler de ces grèves du début du XXe siècle. Et puis, je ne savais pas du tout que les cartes postales pouvaient comme ça rendre compte d'une actualité sociale, d'une actualité en général. L'enquête a commencé à ce moment-là.
Et à quoi ressemblait la première carte postale que vous aviez dans les mains ?
Eh bien, on voit des grévistes avec leurs moustaches, les bras croisés, qui regardent droit dans l'objectif, des hommes et des femmes qui ont l'air très déterminés, des enfants aussi. Enfin, faut imaginer qu'à l'époque, les gens commençaient à travailler à partir de 12 ans, donc les grévistes ont des fois 12 ans, 13 ans. Et puis la légende indique que soupe communiste. Et donc voilà, c'est Fougères en grève, soupe communiste. Donc tout ça m'intrigue. Alors soupe communiste, ça va. Il y a beaucoup. Après, je vais retrouver beaucoup de cartes postales qui, avec ces légendes de soupes communistes, les soupes communistes, c'était les soupes collectives qui permettaient aux grévistes de tenir et qui étaient un enjeu très important.
Pour moi, dans ces photos, il y a la place du photographe dans la société. Ce photographe qui regarde avec son œil particulier cette société en mutation, c'est ce que vous avez voulu montrer ici ?
En tout cas, j'ai voulu rendre hommage à ces photographes qui sont un peu des pionniers du photojournalisme social, qui commencent à s'intéresser aux mouvements sociaux, qui sortent de leur studio où ils faisaient des photographies de mariage ou des photographies très posées, et puis qui commencent à aller dans la rue et à photographier les manifestants, les affrontements avec les forces de l'ordre, les saccages, voilà, et qui commencent à documenter vraiment tous ces mouvements sociaux, d'une manière assez anarchique d'ailleurs, hein. Ils ne le font pas systématiquement, ils ne le font pas comme le font aujourd'hui des photographes de presse, mais bon, ils le font quand même assez vaillamment avec leurs gros appareils, avec des temps de pause importants, avec le problème des plaques de verre, enfin voilà. Donc dans ce film, j'ai eu envie de rendre hommage un peu, j'ai envie de dire, à mes ancêtres dans le métier de documentariste, quoi. Voilà.
Des visages me regardent depuis un passé lointain, fiers et déterminés. Les légendes m'intriguent. Des grévistes donc, dont certains semblent à peine sortis de l'enfance. Le cachet de la poste indique 1906, ce qui correspond à cette période du début du XXe siècle qu'on a nommée la Belle Époque, et dont le cinéma naissant nous a laissé l'image d'un temps heureux, d'innovation et de progrès.
Vous collectez alors 3000 cartes postales. Comment alors vous les avez classées ?
Alors oui, la première partie de mon travail, ça a été de collecter des cartes postales. Donc je me suis baladé un peu dans toute la France. J'ai contacté tout un tas de collectionneurs, de musées, de fonds d'archives, etc. Et puis je me suis retrouvé au bout de quelques années avec cette matière de plusieurs milliers de cartes postales de grève. Après, avec ça, il fallait raconter une histoire, quoi. Voilà. Donc j'ai cherché à tisser une histoire d'un conflit social à un autre en baladant en France, en essayant de construire l'histoire avec du point de vue d'un photographe de l'époque.
Et est-ce que, en positionnant les cartes postales devant vous, vous avez déjà une espèce de storyboard et vous voyez déjà le film devant vos yeux ?
Il y a certains conflits, oui. Je voyais bien le. Parce qu'il y a certains conflits qui sont vraiment documentés de A à Z. Donc. Par exemple, le conflit de Fougères, on pose les cartes postales, on a 150 cartes postales, et ça raconte en images vraiment le conflit sur les 3 mois qu'il a duré. Après, il fallait passer d'un conflit à un autre, que chaque conflit social raconte des choses différentes. Donc là, ça s'est fait, disons, petit à petit. Voilà, pour aller de Fougères à Limoges, à Courrières, donc à chaque fois c'est des axes un petit peu différents. Il ne s'agit pas de raconter à chaque fois le conflit de A à Z, ce qui aurait pu être très monotone. Donc, oui. Bon, par exemple à Fougères, j'ai raconté les soupes communistes, j'ai raconté la pratique des exodes d'enfants. C'est-à-dire que c'est une époque où les syndicalistes ont eu l'idée, pour soulager les grévistes qui crevaient de faim, de confier leurs gosses à d'autres syndicalistes d'autres villes. Donc on a eu comme ça des enfants qui sont partis de Fougères à Rennes, à Paris, à Laval, et ça a donné lieu à tout un tas de cartes postales et à également à un tas d'articles de presse. Mais par exemple sur Courrières, bon, j'ai vraiment mis l'accent sur les conditions de travail épouvantables, et puis les accidents du travail. Enfin, on connaît la catastrophe de Courrières. Mais voilà, à chaque fois, c'était un axe un peu différent.
Il y a ce que montrent les cartes postales, mais vous faites aussi un pas de côté en ayant aussi un regard extérieur. Carole, tu voulais parler de la place du photographe.
Donc, ce photographe, il a une fonction sociale importante. Et puis, avec ce photographe, j'ai eu cette impression que les luttes ont toujours existé, Mais que, comme d'habitude, l'histoire est écrite par les vainqueurs pour nous faire oublier vraiment ce qui s'est passé. Et le photographe qui prend sur le vif des militaires, on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, entre guillemets, pour nous, avec les réseaux sociaux, etc. Mais non, ça a toujours existé. Ces militaires, ces policiers qui foncent sur des manifestants.
Oui, tout à fait. Et on peut dire que de ce point de vue-là, la carte postale est un peu la préhistoire du réseau social, quoi. C'est-à-dire que ce sont des images qui circulent par le bas, enfin, je veux dire, qui sont transmises, qui sont envoyées des gens, enfin, les gens se les envoient très facilement, très couramment. C'est un objet qui est peu cher et qui, pour la première fois, donne une image des grévistes, mais aussi, comme vous le dites, des forces de l'ordre, des patrons. Et ça démocratise pour la première fois la photographie. Voilà, qui va circuler, qui coûte, en gros, ça coûtait 5 centimes à l'époque, c'était vraiment pas très cher. Et tout le monde s'envoyait des cartes postales. Je crois qu'il y avait, dans les années que j'évoque, 1906, 1907, je crois que c'est 500 ou 600 millions de cartes postales qui circulent. Donc on a... Voilà, on a un phénomène nouveau qui apparaît à ce moment-là, un média nouveau qui permet de donner à voir des événements au plus grand nombre. Voilà, à une époque où il n'y a pas encore de photos dans la presse. Vous imaginez ça aussi, la photo n'est pas encore au point dans la presse. Donc la carte postale occupe cette place-là d'un média visuel populaire, bon marché.
Et puis, il y a à la fois le recto de cette carte postale, mais il y a aussi le verso où, sur un événement grave, on peut marquer « bon baiser, à bientôt », quoi. Ou alors, on parle des événements. Et ça aussi, c'est important pour notre histoire, notre société.
Oui, alors c'est vrai que c'est un usage, l'usage de la carte postale à cette époque-là, et souvent un peu en décalage avec l'événement. Il faut voir qu'il y a quand même, entre le moment où l'événement se produit, le moment où la carte postale est éditée, il va forcément se passer quelques jours minimum. Et des fois, on va pouvoir envoyer la carte postale peut-être 2 semaines ou 3 semaines après. Et on l'envoie comme une image. On dit, tiens, je t'envoie une image de cet événement qui s'est passé dans cette ville. Et puis, voilà, je vais te mettre juste bon baiser ou salutation. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est que les gens, après, conservaient ces images. Quoi. Ils allaient pas, une carte postale, ça n'allait pas se jeter comme ça. Dans toutes les familles, il y avait des albums de cartes postales et où on gardait des images. C'était précieux, ce qui est un peu différent d'aujourd'hui.
Deux de mes cartes ont été prises le même jour sur la même place, par deux photographes différents. Sur celle du haut, un groupe de grévistes. Sur la deuxième, on aperçoit, perché sur son échelle, celui qui a pris la première carte. J'imagine ce reporter photographe, mon ancêtre dans le métier en quelque sorte. Il pourrait s'appeler Gustave. Il aurait 25 ou 30 ans et serait fier d'exercer un tel métier plein d'avenir.
Philippe Baron, réalisateur du documentaire « Bon baiser des grèves », sélectionné au FIGRA de Douai dans la catégorie « Autrement vu ». Alors, une carte postale, c'est une image fixe. Et avec la technologie de maintenant, vous faites bouger un personnage. Ce personnage, c'est ce photographe. On peut dire ici que vous faites parler ces cartes postales.
Oui, en quelque sorte. Si vous voulez, moi je suis. Y avait, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu cette première phase de collectage de cartes. Donc je me suis retrouvé avec à peu près 3000 cartes. Et après, je me dis, mais comment je fais un film avec ça aussi quoi? Comment je fais du cinéma avec ça? Si je me contentais de mettre une succession de cartes postales et puis d'aller interroger quelques historiens, ça risquait d'être assez rébarbatif. Et donc là m'est venue l'idée de faire raconter l'histoire par un photographe de cette époque-là, de le voir prendre les photos qui vont faire des cartes postales, donc le champ, le contre-champ, et puis de temps en temps de le voir se promener au sein des cartes postales, donc on l'a incrusté, et puis de construire un récit à la première personne, au présent, à partir d'articles de presse, de mémoires, de travaux d'historiens, etc. Mais de construire un récit vivant qui fasse que voilà, c'est lui qui raconte l'histoire de ces grèves, il y est et on est avec lui au maximum. C'est de ça que je me suis efforcé.
Et il y a une séquence notamment où on le découvre, image par image, on le découvre et justement vous jouez aussi avec les codes. Le premier appareil photo dans ses mains, c'est un appareil photo numérique. Alors lui, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est que ça. Et en fait, vous remontez finalement, vous faites un flashback sur ça. Et on peut dire que c'est les premiers photojournalistes alors.
Oui, exactement. Moi, ce que je voulais raconter. C'est un photographe qui sort de mon imagination. Je suis en train de regarder des cartes postales et puis j'imagine le photographe. Donc au début, je lui ai mis dans les mains mes propres appareils photo. Ça n'allait pas. Lui, il a un gros appareil avec des plaques de verre, etc. Et le film après est construit un peu comme un dialogue entre moi qui cherche à comprendre ce que c'est que ces cartes postales et lui qui est 120 ans en arrière et qui m'explique ce qu'il vit, ce qu'il raconte, quoi, comment il travaille, etc. Et
évidemment, on fait un lien avec aujourd'hui et notamment l'actualité des gilets jaunes. Il y a aussi ça avec les photojournalistes d'aujourd'hui, il y a ce lien avec ceux d'hier.
Si vous voulez, moi, quand j'ai découvert ces cartes postales, il y a eu des moments, ça m'a fait penser à quoi. Ça m'a fait penser à des. Quand on voit les soupes communistes, moi, j'ai tout de suite pensé aux photos des gilets jaunes sur les ronds-points. Je me suis autorisé aussi à faire des petits parallèles comme ça, parce que je pense que, évidemment, que les photos d'aujourd'hui se nourrissent des photos d'hier. L'imagerie d'aujourd'hui se nourrit d'une imagerie qui s'est construite petit à petit. Et l'imagerie des luttes sociales, elle s'est bâtie petit à petit et elle commence à ce moment-là, par ces luttes du début du XXe siècle.
Et hier comme aujourd'hui, il y a un point commun, c'est la force des images. Dans votre film, justement, ces photographes avec un appareil de 5 kilos, des plaques en verre, difficile quand même pour se déplacer, captent des instants présents, des manifestations, des visages, des femmes, des enfants. On parlera de la place des femmes dans quelques instants. Dans le Nord, les photographes immortalisent la catastrophe de Courrières et on voit ces gueules cassées. Pour les survivants, des images poignantes et pleines de force. Quand vous découvrez ces photos de rescapés, c'est bluffant quand même, ces images, ça marque.
C'est bouleversant, c'est bouleversant. C'est encore bouleversant aujourd'hui, moi, je trouve. Et ça devait être très, très bouleversant à l'époque. Et c'est des images qui ont beaucoup, beaucoup circulé et qui ont beaucoup fait aussi pour sensibiliser, je pense, le public à la dureté de ces métiers, aux risques que les gens prenaient. Enfin, je crois que les images des victimes de Courrières, c'est la première fois qu'on voit des images de victimes, de gens comme ça, d'accidents terribles, mais des accidents du travail. Et je pense que ça a beaucoup fait pour sensibiliser le public. C'est la force des images, c'est la force d'un visage, d'un regard. C'est encore très puissant, même 120 ans après, moi, je trouve.
À Fougères, les ouvriers qui s'opposent à la grève sont minoritaires, mais ils ont aussi leur carte postale. Ils font partie du syndicat jaune et se réunissent dans un lieu qu'ils ont nommé Bourse du Travail Indépendante.
Les patrons soutiennent financièrement ce syndicat jaune. Il incite les ouvriers à briser la grève. Dans la ville, le climat est très tendu. Comme ce jour où les rouges tentent d'empêcher des jaunes de reprendre le travail.
C'est une véritable révolution à Fougères. Les ouvriers n'ont pas pu rentrer. Et ceux qui ont essayé ont été hués et reconduits chez eux, recouverts de crachats.
Les femmes sont là, non seulement en tant qu'ouvrières, elles sont là aussi en tant que femmes qui font la cuisine, parce qu'il faut aussi nourrir ces hommes qui, pendant des jours et des jours, sont sans solde. Et vous rappelez bien que, j'en parle parfois avec mes élèves, mais ils me regardent avec des yeux genre « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Travailler 7 jours par semaine et les luttes sociales, oui, elles sont importantes. Mes élèves de seconde, ça ferait déjà un petit bout de temps qu'ils seraient au boulot et ils ne seraient pas là en train d'apprendre des trucs qu'ils trouvent un peu idiots ou c'est pas la peine de revenir autant sur plein de choses. Et puis dans les choses aussi que j'aime bien dans votre documentaire, c'est ces petits pas de côté, ces petits pas d'histoire. Par exemple, l'histoire de la poste, c'est savoureux. Le prix du timbre, en fonction des mots que vous mettez sur une carte postale. Et ça, c'est la richesse de votre documentaire.
Je vous remercie. Non, mais c'est vrai que moi, j'avais envie de raconter plein de choses. Hein. C'était à la fois les luttes sociales, mais c'était aussi, comme vous dites, le média de la carte postale, comment elle se fabrique, comment elle circule. Alors, comme vous le dites, le fait que le prix du timbre dépendait du nombre de mots. Donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre et à le découvrir. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais 2 cartes postales, une avec un timbre à 10 centimes, une autre avec un timbre à 5 centimes. Et en fait, ça dépend du nombre de mots. Donc, jusqu'à 5 mots, le timbre ne coûte que 5 centimes. Et puis au-delà, c'est 10 centimes. Donc, c'est, oui, c'est à la fois amusant. Et pour revenir sur ce que vous dites sur les femmes, je pense que les cartes postales nous permettent on les voit sur les cartes postales. Elles sont là dans les manifs, elles sont là dans les soupes communistes, elles sont arrêtées, elles sont là dans les cartes postales d'arrestation. On les voit se réunir, prendre la parole. Elles sont au premier rang des manifs bien souvent. Et ce qui n'est pas forcément raconté dans les livres d'histoire, parce que à l'époque, les femmes n'étaient pas forcément dans les instances dirigeantes des syndicats, donc elles étaient encore peu représentées, elles n'avaient pas le droit de vote, etc. Mais les cartes postales les montrent bien qu'elles sont là. De même que les enfants, on voit plein de gamins dans les cartes postales de manifestation, il y a plein de gamins qui sont soit des très jeunes travailleurs, soit des gamins qui viennent aussi soutenir les manifs, traîner par là. Et ça, c'est aussi la force de ce document visuel, c'est de montrer des choses qui ne sont pas forcément racontées dans les articles de presse.
Oui, et puis pour revenir sur la place des femmes, pendant longtemps, comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire est écrite par les vainqueurs, sont souvent des hommes, on a invisibilisé le travail des femmes en disant non, mais elles ne travaillaient que quand les hommes étaient au front. Non, elles ont toujours travaillé, elles ont travaillé dans les champs, dans les usines, mais ce qu'il y a, c'est que leur salaire allait à leur père ou à leur mari, donc forcément, elle ne pouvait pas avoir une existence en tant que telle, une espèce d'existence juridique, c'était des majeurs protégés.
Oui, absolument. Mais ce qu'on voit apparaître dans ces manifestations de 1905 aussi, c'est aussi des femmes qui revendiquent, et y compris des choses au-delà des droits du travail, mais qui vont revendiquer. y a des revendications sur le droit à l'avortement, sur le droit de vote, sur voilà, il y a tout un tas de revendications comme ça qui sont portées à ce moment-là, bon, qui vont pas aboutir tout de suite, mais qui sont quand même en germe.
Le cadavre d'une jument, avec des gens qui posent fièrement autour.
Pour les grévistes, cette jument est une prise de guerre. Ils l'ont renommée estacade, qui veut dire barrage dans le pays. Les ouvriers détestaient cette cavalerie qui symbolisait l'arrogance de l'aristocratie. Cette carte est la préférée des manifestants et ma meilleure vente. Grâce à ce succès commercial, je m'achète un deuxième appareil, un clap, fabriqué à Paris par Gilles Faller, avec un magasin contenant 6 plaques, plus maniable, idéal pour le reportage. Cela m'ouvre aussi les portes de la grande maison d'édition ELD, fondée par Ernest Le Delay. Elle est située en plein Paris. La boutique sur 2 étages propose à la vente des centaines de milliers de cartes. ELD fait travailler des dizaines de vendeuses et retoucheuses et possède sa propre imprimerie en phototypie.
En visio avec Carole, Philippe Baron, réalisateur du documentaire « Bon baiser des grèves » présenté au FIGRA de Douai. C'est un film sur un hommage sur le photojournalisme, montrer la réalité du terrain, le travail d'enquête, de proximité, rendre visibles aussi les colères et partager une expérience collective. Est-ce que, par exemple, lors des manifestations aussi du 1er mai à Paris, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils photographient ou pour eux, c'est simplement rendre compte de l'actualité ? Est-ce qu'ils ont conscience ou pas que ces photos vont faire le tour du monde et qui vont changer à jamais l'image de la France ?
C'est difficile, hein, c'est difficile d'y répondre. Je pense qu'il y avait différentes sortes de photographes. Hein. Il y avait des photographes qui s'intéressaient vraiment à la chose sociale, mais il y en avait d'autres qui passaient d'un sujet à un autre. Donc voilà, ils allaient photographier une manifestation, puis le lendemain, ils allaient photographier toute autre chose. Là, moi, c'est vrai que j'ai rassemblé ces photos qui ont été le fruit du travail de dizaines, peut-être de centaines de photographes. Bon, j'ai inventé un personnage de photographe qui les rassemble, mais je pense que les profils étaient très variés. Il y avait aussi des photographes qui sont sortis de leur magasin de photos le temps de la grève ou le temps de la manifestation, et puis hop, qui ont fait quelques photos de grève, et puis après qui sont retournés à leur travail. D'autres pour qui ça a changé leur vie, et puis qui se sont mis après à faire plus de photos sociales. Enfin, vous voyez, il y a des... Je ne pense pas qu'ils avaient forcément conscience, en tout cas, que ce qu'ils faisaient, ces cartes postales, ces photographies, resteraient des documents très pertinents pour l'histoire et pour notre regard encore aujourd'hui, quoi. Parce que c'est les seuls documents sur ces conflits sociaux, c'est les seuls documents visuels sur les conflits sociaux de cette époque-là, quoi. Une époque où il n'y avait pas de cinéma, enfin où le cinéma ne s'intéressait pas du tout à ces luttes, ben ces images sont les seules images de ces conflits sociaux de la Belle Époque, qui sont les premiers à être photographiés.
Bon baiser des grèves, réalisé par notre invité Philippe Baron, un documentaire de 52 minutes présenté le 1er avril au FIGRA. Et vous pouvez d'ailleurs découvrir ce film gratuitement et en intégralité sur France.tv. Donc on mettra le lien du film sur le podcast de cette émission. Merci beaucoup Philippe Baron, merci à vous et bon FIGRA.
Merci Joris.
Merci Carole.
Merci. Moi, je voulais dire que votre documentaire, il m'a fait penser à deux références. Ouais. Alors, Jean-Gabriel Perriot, 200 000 fantômes. Mmh. Et puis aussi, film d'animation interdit aux chiens et aux Italiens.
Ah, vous avez pensé à ça?
Oui, ouais. Voilà. Parce qu'il y a toute cette histoire des Italiens. Alors, j'ai raccroché dans ma mémoire des choses. Et c'est aussi important de ne pas oublier cette histoire-là. Voilà.
Ah bah écoutez, c'est intéressant parce que c'est enfin le coproducteur René, vivement lundi, est aussi coproducteur du film Interdit aux chiens Voilà. Donc on se connaît.
Voilà.
Okay. Voilà. Il y a toujours des liens.
Ce sont des ponts qui se sont faits un peu dans ma tête.
D'accord.
Voilà pourquoi j'aime bien, en fait, comme tout prof de sciences éco qui doit dire à ses élèves, quand vous faites une conclusion, vous faites une ouverture. En ouverture, pour moi, il y a 200 000 fantômes et interdits aux chiens et aux Italiens.
Ben, merci, Carole, pour cette ouverture. Ouvrez-vous aussi au monde en allant au FIGRA à Douai. C'est jusqu'à samedi. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Un cliché est publié dans l'Illustration, une des seules revues qui diffuse des photographies. Que ce journal bourgeois consacre une page entière à un conflit social est exceptionnel. Mais en regardant de plus près, on se rend compte que l'image est truquée. La revue a pris des éléments des deux cartes pour en recomposer une seule. Au passage, les femmes ont été gommées du tableau. Comme si la manifestation n'était pas un endroit pour ces dames. Pourtant, sur beaucoup de cartes, elles sont aux avant-postes des cortèges. Elles participent aux piquets de grève, maniant l'aiguille à tricoter ou régnant sur des marmites géantes. Elles affrontent physiquement la cavalerie et sont arrêtées sans ménagement.
Je croise beaucoup de femmes extraordinaires, des militantes féministes qui animent des conférences. Elles parlent des inégalités salariales, du droit de vote, du contrôle des naissances. Je découvre beaucoup d'idées nouvelles au contact de ces femmes courageuses, prêtes à se sacrifier pour leurs convictions. Comme en ce mois de juin 1907, dans le Midi. D'immenses manifestations de viticulteurs protestent contre les fraudeurs qui trafiquent leur vin avec du sucre, contre les importateurs de vins étrangers, mais surtout contre la misère qui les affame. Les rassemblements sont énormes. Je n'ai jamais rien vu de tel. 600 000 manifestants à Montpellier, 300 000 à Béziers, 150 000 à Narbonne.
Philippe Baron, réalisateur de « Bon baiser des grèves », sélectionné au FIGRA, un documentaire coproduit par Pictanovo et France 3 avec la région Hauts-de-France. Vous pouvez découvrir ce documentaire gratuitement sur France.tv. Merci à Carole, c'est le clap de fin de cette émission, un petit peu plus courte aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous le savez, allez au cinéma.
Scarp Ciné,
séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensée, ça tourne.
Et action !